C'est sur ces quelques accords de Jimi Hendrix que nous vous souhaitons une bienvenue dans cette nouvelle Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la Bonne FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, un sommaire somme toute assez simple, puisque dans une première partie, nous vous parlerons des livres que l'on a remarqués ce mois-ci, ou tout au moins ces quelques dernières semaines. Et puis dans la deuxième partie, deux livres documentaires, vous allez voir, très différents l'un de l'autre, mais tout aussi intéressants. Et puis Jacques nous parlera d'une bande dessinée qu'il a beaucoup aimée.
Une excellente bande dessinée, effectivement.
Mais comme on l'a dit, on va parler de livres qui nous ont particulièrement interpellés ces temps-ci.
Et là, on va partir en Norvège avec Kjej Oladal. Bien évidemment, la prononciation est toujours sous réserve. Le roman s'appelle Le noyé dans la glace. Là, par contre, c'est plus...
Si on me demandait de dire la VO, là, ce serait peut-être plus dur.
Ce serait peut-être plus dur. Et le noyé, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est noyé et pas l'arbre. Hein. Et il est publié à la Série Noire et il est traduit par Hélène Hervieux. Je disais donc, on va faire un petit tour en Norvège, en hiver, dans sa capitale, Oslo, où, comme le titre vous l'indique, on va retrouver un mort noyé dans le port. Et comme c'est l'hiver, je le disais, les eaux du port sont plutôt glacées. Et c'est bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà Kjej Oladal, c'est l'équipe de Gunnar Stranda, le commissaire, qui va enquêter. Et dans cet roman, c'est plus précisément Lena Stingersand.
Et voilà.
Et voilà. Ouais. Une jeune inspectrice qui va être plus principalement l'héroïne. Et c'est elle qui va très vite penser que la noyade n'est pas aussi accidentelle qu'on voudrait bien lui faire croire. Le noyé enquêtait sur un fonds de pension richissime, ils ont beaucoup d'argent à cause du pétrole, et sur ses investissements à l'étranger qui ne respecteraient pas, disons, toutes les exigences de moralité et d'intégrité. Comme si les investisseurs de quelconque pays pouvaient avoir des états d'âme, bien évidemment, mais bon, ça c'est moi qui le dis. Mais il y a quand même des apparences à sauvegarder. Et le rapport du noyé, donc, il allait peut-être gêner quelqu'un ou quelques-uns. Et c'est donc une des premières pistes de la policière. Mais quand un flic se mêle d'affaires des milieux boursiers, à laquelle sont étroitement liés des politiques, et qu'en plus des journalistes s'en mêlent, l'enquête va prendre, disons, des tournures auxquelles Lena ne s'attendait pas du tout. Surtout qu'elle apprend au cours du roman qu'elle est gravement malade, et que son amant du moment pourrait bien être un véritable salopard, si vous me permettez l'expression.
C'est pas facile, l'amant du moment.
L'amant du moment, oui. Et elle va donc bien avoir besoin de toute l'expérience et du flegme scandinave de son chef, Gunnar Stranda, pour mener ses investigations jusqu'au bout. Lequel Gunnar Stranda, lui, est sur notre affaire, qui va...
T'as pas embrouillé.
Oui, et il enquête sur notre affaire, mais qui va bien évidemment, c'est un roman, elles vont se rejoindre toutes les deux. Les lecteurs des précédents romans retrouveront même l'ex-inspecteur Frolich au détour de l'enquête.
Qui était le personnage récurrent.
Voilà, qui était l'adjoint de Gunnar Stranda, voilà, qui revenait souvent. Bien que, disons, de style et de type très différent, Kjej Oladal est en train de se rapprocher, dans les Norvégiens en tous les cas, de Jo Nesbø pour la qualité de ses livres, du moins à notre avis.
Bah, aussi du tien, parce que toi, Jo Nesbø, c'est un de tes préférés.
Voilà.
Aussi.
Alors depuis L'homme dans la vitrine, la première apparition, donc je crois que c'était Superintendant à l'époque, en 2007, Gunnar Stranda, l'écriture de Oladal s'est vraiment bien améliorée et il arrive à distiller une véritable empathie pour ces personnages qui ont pris du corps, on les connaît mieux, on partage un peu de leur vie, le temps de quelques, disons, 350 pages. Son intrigue, où se mêle politique, collusion entre la presse et le pouvoir, permet aussi de raconter les méfaits de ces investisseurs qui, sous couvert de la puissance que leur confère l'argent, voudraient bien agir en toute impunité. De plus, sans être un page-turner, Oladal réussit vraiment à tenir son lecteur en haleine de très très belle façon. Alors, il n'y a pas toutes les astuces des page-turners américains comme ça, mais c'est très très...
J'ai dit ça ne me dérange pas.
Ben non, au contraire, mais c'est ce que je voulais dire, c'est très très bien fait. Et puis aussi, on découvre la vie en Norvège au quotidien, les rites de Noël, les gâteaux à la cannelle, ainsi quelques petits détails qui peuvent nous paraître, nous, très exotiques, tel celui du flic qui, en guise de jogging matinal, va faire un petit 15 km en ski de fond. Il faut bien que...
C'est sûr qu'entre Nice et Grasse, les 15 voilà. km en ski de fond, on n'a pas souvent l'occasion de le faire.
C'est sûr. Il faut bien que la neige ait quand même quelques avantages. Un léger bémol cependant, la série noire a changé de traducteur pour ce tome, et je ne suis pas sûr que le lecteur français y ait beaucoup gagné au change. Peut-être que le traducteur habituel Alain Guéning était trop occupé à cette période à traduire l'imposant roman de John S. Bö, Police, dont on vous parlera probablement une autre fois. Donc je rappelle, Qui est Joladal, le noyé dans la glace, paru à la série noire de Gallimard. Corinne, toi, tu nous changes complètement de
genre. Oui, ça va changer beaucoup de genre, enfin je trouve. Moi, je vous annonce directement chef-d'œuvre. C'est un livre qui m'a vraiment enthousiasmée. Ça s'appelle « Le dernier message » de Sandrine Madison. C'est le dernier roman paru au Seuil policier de Thomas H. Cook. Et c'est un roman qui est traduit par Philippe Louba Delran. En thème, je parlerai d'un essai d'écriture qu'on nous a fait souvent faire au collège ou au lycée. En gros, le sujet, beaucoup d'entre nous ont eu à plancher sur la question « Et si un incendie se déclare, que sauveriez-vous ? Le chat ou le Modigliani ?» Eh bien, Sam, le personnage principal de ce magnifique roman, aurait certainement répondu, lui, le Modigliani, tant il a toute sa vie fait passer les livres et la culture avant les êtres humains. Avant même sa femme Sandrine, décédée récemment. S'est-elle suicidée, ne pouvant supporter le diagnostic des médecins? Venait de lui annoncer qu'elle avait la maladie de Charcot, qui est une dégénérescence terrible. Ou bien, Sam, on va dire, confie dans son indifférence et son incapacité à ressentir les êtres humains, l'a-t-il aidé à passer le Styx et l'Achéron? Il faut dire qu'ils ont tous les deux une grande culture grecque et latine. Et c'est au cours du procès de Sam, accusé donc du meurtre de Sandrine, que nous allons découvrir l'histoire de ce couple, Sam-Sandrine, et l'évolution de leur vie, de leurs sentiments. En effet, devant ses réponses et son comportement étrange, dénué pour les uns et les autres de toute parcelle d'humanité, la présomption, cette fois de culpabilité, je parle bien de présomption de culpabilité, ne fait aucun doute pour tous ceux, flics, médecins, voisines, tous les gens qui l'ont côtoyé juste avant et juste après la mort de Sandrine. Ce roman va donc se dérouler sur 10 jours, les 10 jours du procès. Les témoins vont donc défiler dans l'ordre d'apparition d'après la découverte du corps de Sandrine. Et c'est l'occasion pour Sam, défendu par le tonitruant et très efficace Morty, de revenir sur son attitude vis-à-vis de chacun d'entre eux au moment de la mort de Sandrine, mais aussi sur toute sa vie, et en particulier toute sa vie avec Sandrine. En particulier, le bonheur du voyage en Méditerranée, tout un symbole, la Grèce, l'Italie, berceau de la culture qu'ils aiment tant, mais aussi souvenir, est-ce que c'est un souvenir du bonheur d'aimer? Et puis, les années qui passent, côte à côte, mais de plus en plus loin, jusqu'à ne plus bien comprendre les messages, ces messages que tente de lui faire passer Sandrine, jusqu'au bout. Bien que se passant entièrement lors d'un procès, ce roman n'est pas du tout un roman style judiciaire. Le thème, c'est le doute. Le doute raisonnable ou pas, qui est le fil conducteur de ce magnifique récit de Thomas H. Cook. Comment sait-on si l'on aime, si l'on est aimé? Comment interpréter des gestes, des signes, des mots? Et Sam, comme quiconque, peut bien avoir une culture livresque gigantesque, cet érudit semble bien démuni quand il s'agit d'interagir avec les autres êtres humains. Le doute qui ne doit d'ailleurs quitter aucun esprit quand il s'agit de juger autrui, au niveau d'un procès certes, mais aussi en toutes circonstances. Et dans ce merveilleux roman, un ancien roman, je ne parle pas de celui-là, mais d'un ancien roman de Thomas H. Cook qui s'appelait « Les leçons du mal », l'écrivain américain s'attaquer à la rumeur qui, au sein d'une petite ville, d'une communauté, peut détruire des êtres humains. Eh bien, on retrouve ce thème tout en subtilité et en finesse, peut-être encore plus subtilement que dans Les leçons du mal. Comme je vous l'avais compris, ce livre, c'est vraiment un grand roman de Thomas H. Cook. Il navigue constamment sur le fil fragile des sentiments humains. Il trouve à chaque fois le mot juste, la phrase qui, sans emphase, va être au plus près de l'âme humaine, dans sa noirceur, dans sa lumière, dans ses chutes vertigineuses et dans ses moments de beauté fulgurante. C'est vraiment un des plus beaux romans que j'ai lus ces derniers temps, qui laisse dans l'esprit du lecteur un ressac permanent, des résurgences qui n'ont pas fini de venir nous interpeller. Et en fait, quoi de mieux pour un livre que de nous perturber, nous déstabiliser quelque peu, et justement d'entretenir ce doute, on va dire cette inquiétude morale, chère entre autres à un cinéaste qui s'appelait Krzysztof Kieślowski. Voilà.
Tu nous rappelles le titre parce qu'il est un peu long.
Le dernier message de Sandrine Madison, Seuil policier, traduit par Philippe Louba Delran. Merci Thomas H. Cook. Un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique, alors sans aucun rapport, à part que c'est un musicien américain. Il s'appelle Mark Ford. C'est l'ancien guitariste du groupe Les Black Crowes. L'album, c'est son dernier album qui est sorti très récemment. Il s'appelle Holy Ghost. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Turquoise Blue. C'est une très belle ballade folk.
Hello, turquoise blue. Another day is brand new. Whispered on me, sweet silhouettes. Wisdom runs deep in you. Hello, crimson red. Lift your sleepy head. A smile from you can make me new. You've raised me from the dead. Spend all your time chasing your tail. Slow down, come round, find your ship and set sail. Before you say goodbye, promise you'll try. Goodbye, cold black night. You suffer in the light. Walking from your shadows now, there's no more need to fight. Hello, bright white heat, lay beneath my sheet. A smile from you can make me new. You save me from defeat. Slow down, come around, find your ship and set sail. Before you say goodbye, promise you'll try.
Et ben voilà, c'était Mark Ford.
Et nous allons repartir dans les affres de la guerre.
Ou presque. Avec Thierry Bourcy, le roman s'appelle « Les ombres du Rochambeau » et c'est paru au Nouveau Monde édition. Alors justement, tu parlais de la guerre. On pensait qu'on avait définitivement perdu notre flic et soldat, Célestin Louise. Bien qu'après le désastre de la guerre 14-18, Thierry Bourcy lui avait donné encore une petite chance de continuer de faire carrière dans les Brigades du Tigre en 2012 et aussi en 1919. Enfin, le 2012, c'est quand le livre était paru. 1919, c'est l'année où il se passait.
Oui, parce que sinon, ça fait une longévité quand même.
Tout à fait.
Je sais bien qu'il y a des héros de romans qui sont centenaires, mais quand même.
Bon, puis les Brigades du Tigre, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Le roman s'appelait Le crime de l'Albatros, qui était paru aussi au Nouveau Monde édition. Mais voilà, Célestin Louise, en fait, ne peut plus continuer à vivre sur ce continent qui restera pour lui à jamais celui de la boucherie, de la mort, des militaires et des camarades qu'il a perdus. Donc, il embarque à bord du Rochambeau, qui est un navire de la Compagnie Générale Transatlantique, pour un nouveau départ une nouvelle vie aux États-Unis avec sa compagne Jeanne et son ami Alan, qui était l'ex-traducteur de l'armée américaine qu'il avait croisé dans deux épisodes précédents. Et il va bosser donc pour Alan dans ce nouveau monde qui semble plein de promesses. Mais voilà, on est dans un polar et la traversée ne peut pas se passer tranquillement. Les deux amoureux ne vont pas pouvoir profiter longtemps des transats de la transat.
Waouh !
Car il va y avoir un meurtre. Et c'est bien sûr à Célestin Louise, en tant qu'ex-flic, que le capitaine du paquebot va confier l'enquête. Le mort, c'est un certain Fernando Barbosa, un journaliste portugais. Il a été tué dans sa cabine de plusieurs balles de pistolet. Il a juste eu le temps d'écrire trois lettres F-A-T en lettres de sang.
Et comme on est... Bon.
Voilà.
C'est plein de drame.
Exactement, mais c'est un peu comme ça. Et comme on est sur un paquebot, certes luxueux, et le ou les meurtriers sont forcément encore à bord. Et là, Thierry Bourcy va s'amuser à faire un roman d'intrigue presque classique, mais dans le huis clos d'un bateau. La guerre est finie, certes, mais il reste encore des traces chez de nombreux personnages, personnages passagers. Il y a un cardinal, un général, un russe exilé, un couple d'Italiens, des hommes d'affaires, deux vétérans de l'armée anglaise, ils sont anglais évidemment, et bien d'autres sur lesquels les soupçons vont pouvoir se porter. Ceux qui ont lu les précédentes enquêtes de Célestin Louise savent que c'est un fin limier, mais il va avoir beaucoup de fils à retordre pour débrouiller l'affaire avant l'arrivée dans le port de New York, où il n'aura plus aucune juridiction, bien évidemment. Il va même payer de sa personne. Mais, chut, je n'en dirai pas plus. Vous le lirez. Alors même si l'enquête semble classique, comme je le disais, Thierry Bourcy va mettre son grain de sel pour noircir le propos et s'éloigner du simple Agatha Christisme. Il n'oubliera pas, par exemple, de remettre le général en place, général donneur de leçons, mais pourtant responsable du massacre de tant de jeunes hommes dans les tranchées. De même, le cardinal, le traditionnel allié des militaires et des nantis...
Le glaive et le goupillon.
Voilà, il en prendra pour son grade. Sans que cela devienne un pamphlet, bien évidemment. Et puis il y a aussi la description de la vie à bord de ce navire. Les repas mirifiques, les promenades sur le pont éclairées par la lune, le petit thé de l'après-midi bien calé dans les transats. Les transats de la transat, je le disais tout à l'heure. À regarder la mer ou à regarder les dauphins qui font un petit bout de route, un petit bout d'Atlantique à côté du bateau. Donc un conseil... Prenez votre billet.
Ah, je croyais, oui, du carrément la croisière, là.
Prenez votre billet, c'est pas facile. Là, c'est facile, vous prenez un billet à la librairie pour embarquer avec Célestin à bord
C'est quand même moins cher, tu as raison.
Voilà, à bord du Rochambeau. Surtout que Thierry Bourcy l'assure en préface, cette fois-ci, c'est bien la dernière enquête de Célestin Louise. Donc, autant en profiter.
Voilà, mais on ne sait pas s'il meurt ou pas.
Ah, ben, je ne le dirai pas. Donc je rappelle, le roman s'appelle Les Ombres du Rochambeau, c'est le nom du navire, de Thierry Bourcy au Nouveau Monde édition.
Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission dans quelques minutes.
Après les informations, tout à l'heure.